Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui, j'espère, vous donne envie d'y aller, c'est important, encore plus en ce moment. Justement, aujourd'hui, on va parler de la question du genre. Comment est-elle traitée sur grand écran ? À l'occasion de la sortie du film Miss, dans lequel un jeune homme rêve de devenir Miss France, il va même réussir à accéder au concours. Alors, comment questionner le genre au cinéma sans tomber dans le cliché ? Depuis quand, d'ailleurs, le cinéma s'intéresse-t-il à cette question ? On en parle dans un instant et on recevra le réalisateur de Miss, Ruben Alves. À 14h30, les films de ma vie, c'est le dessinateur Zep, papa de Titeuf notamment, cinéphile averti, qui nous racontera son premier souvenir au cinéma, son film préféré mais inavouable, ou encore la bande originale qui a marqué sa vie. Et puis juste après, vers 14h40, on débattra des films sortis en salle mercredi dernier, avec un beau programme aujourd'hui. Le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, Polly, le nouveau Nicolas Vanni, avec cette fois une histoire de poney de cirque à sauver. On parlera aussi de Petit Vampire, le film d'animation de Johan Sfar, et puis on dira quelques mots de Peninsula, il sera question de zombies. Voilà pour le programme de Clap. N'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et tout de suite donc notre récit consacré au genre sur grand écran.
Europe 1. Le récit.
Avant toute chose, il faut rappeler d'où vient le terme genre. Et si l'on s'en tient à la définition de Wikipédia, il désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie, mais de la construction sociale. C'est ça qui est intéressant, car forcément, le cinéma y participe à cette construction sociale. D'ailleurs, si le terme genre a été popularisé dans les années 70, le cinéma a abordé la question bien avant. En 1933, par exemple, sort en pleine montée du nazisme « Victor und Victoria », c'est un film musical allemand, l'histoire d'une femme qui se fait passer pour un homme, mais travestie en femme. Un remake américain est réalisé en 82 avec Julie Andrews, mais cette fois, elle se fait simplement passer pour un homme.
You and me, we're the kind of people other people would like to be. You and me.
Alors le film est un succès, plus de 2 millions d'entrées rien qu'en France, mais il n'y a pas que le cinéma américain qui s'est intéressé à la question. Dès 1978, c'est un certain Jacques Demy qui adapte un manga japonais, Lady Oscar, l'histoire d'une aristocrate qui est élevée comme un garçon, habillée en garçon et présentée comme un garçon dans la société par son père, un père déçu d'avoir encore une fille à la naissance, Oscar qui va même entrer comme officier dans la garde de la reine avant de se révéler.
Nous n'avons pas besoin de femmes dans cette famille. Depuis des générations, nous commandons des armées et protégeons les rois.
Qu'est-ce que vous allez faire d'elle, monsieur ?
Peu importe ce que tu es en réalité, moi je dis que tu es un garçon. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils.
À vrai dire, la question du travestissement est présente depuis longtemps dans le cinéma, plutôt sous une forme humoristique d'ailleurs. Mais il est souvent lié à un objectif bien précis. Dans Madame Doubtfire, par exemple, Robin Williams se fait passer pour cette gouvernante excentrique afin de voir ses enfants.
Je ne peux que plaider la folie. Parce que depuis qu'ils sont venus au monde, depuis le moment où je les ai regardés, je suis fou d'amour pour eux. Dès l'instant où je les ai tenus dans mes bras, ça m'a pris. Je suis accro à mes gosses, monsieur le président. Et je ne peux pas vivre sans eux. Écoutez, je ferai n'importe quoi. Tout ce que je demande, c'est de les voir. J'en ai besoin, monsieur le président. Alors je vous en supplie, ne m'enlevez pas mes enfants.
Dans certains Lame Show de Billy Wilder, nos deux musiciens de jazz se transforment en musiciennes, mais pour échapper à des gangsters.
Ascoot, je serai franche avec vous. Nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi ?
Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas, Ascoot.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
En fait, il faut attendre les années 90 pour voir des personnages qui se travestissent car ils ne sont pas à l'aise avec leur sexe. Dans le film Boys Don't Cry, par exemple, sorti en 1999. Un film cru, violent, l'histoire de Tina Brandon, interprétée par Hilary Swank. Tina est une jeune adolescente qui se sent mal à l'aise dans son corps de fille. Elle décide de quitter sa ville natale pour devenir Brandon, un jeune garçon.
Mademoiselle Brandon, nous avons vérifié votre permis de conduire au nom de Charles Breman hier. Et voilà ce que les collègues de Lincoln nous ont faxé sur vous. Expliquez-moi.
Waouh, cette Tina a l'air de débloquer sérieusement.
Mais une fois son secret révélé, Brandon sera violé puis tué par deux délinquants. C'est ce film qui vaudra son premier Oscar à Hilary Swank. En France, c'est en 2011 que Céline Sciamma s'intéresse à la question avec Tomboy, ce qui veut dire garçon manqué en français. L'histoire de Laure, une petite fille de 10 ans qui a du mal à s'intégrer dans son nouveau quartier et se fait passer pour un garçon le temps d'un été. La réalisatrice joue sur l'androgynie de sa jeune actrice et surprend le spectateur qui ne découvre qu'au bout de 15 minutes qu'il s'agit en fait d'une fille.
T'es nouveau ?
Moi, on est arrivé hier.
Tu veux pas me dire comment tu t'appelles ?
Michael. Je m'appelle Michael.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon ? Pourquoi t'as fait ça ?
Le film est acclamé par la critique et sera même diffusé dans le cycle École et cinéma créé par le CNC pour les enfants du CE2 au CM2. On est alors en pleine période de débat autour du mariage pour tous et de la théorie du genre. Des associations catholiques lancent même une pétition pour que le film ne soit plus montré aux enfants. L'année suivante sort Lawrence Anyways de Xavier Dolan. L'histoire d'un homme, Lawrence, joué par Melville Poupeau, qui annonce à sa petite amie qu'il se sent femme depuis toujours. Le couple décide de résister aux préjugés et tente de continuer leur relation.
Pourquoi tu réagis comme ça, maman, là ?
Tu m'annonces un truc complètement dingue, excuse-moi. Tu veux choisir ma réaction, en plus ? Et ton père ? Ton père voudra jamais te voir en femme.
Ah, excuse-moi, il veut me voir en homme.
Je suis sûre que c'est très sérieux, Lawrence. Faut pas penser que je te prends pas au sérieux. Mais que tu sois sérieux ou non, tu crois que je vais me martyriser ? Je vais me dire que je suis une mauvaise mère ?
Mais non.
Je m'en fous !
Je voulais aussi vous parler du film de Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume à table, film autobiographique dans lequel il raconte son enfance, persuadé d'être une fille car traité très différemment de ses frères, notamment par sa maman. C'est drôle, c'est délicat. Le film est un gros succès critique et public. Guillaume Gallienne en parlait sur Europe 1.
Je ne l'ai pas fait pour raconter ma vie. C'est un jour, justement, chez le psy, où je me suis souvenu que ma mère disait « Les garçons et Guillaume à table ». Je me suis dit quand même, il y a un dossier. Mmh. Et tout ce qui, à l'époque, n'était que des anecdotes isolées que je racontais dans les dîners. Tout d'un coup, il y a eu un fil qui s'est comme ça, qui s'est déplié et je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire assez cohérente de ce jeune homme qu'on a étiqueté d'une sexualité avant que je puisse la découvrir ou l'inventer. Et c'est l'itinéraire, disons, d'un enfant gâté, mais pas si gâté que ça. Je m'en suis pris plein la gueule. Mon surnom, c'était la pédale, la tentouse, tout ce que vous voulez. Cela dit, j'ai toujours eu, et c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans le film, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui ont pensé P-E-N-S-E-R, mais aussi P-A-N-S-E-R, la différence par la bienveillance.
Depuis quelques années, la question du genre est très clairement installée dans notre société et dans notre culture. Les films se multiplient, le déchirant Girl en compétition à Cannes, Nos années folles d'André Téchiné, sur l'histoire de ce soldat qui déserte et qui, pour échapper à la prison, se travestit jusqu'à y prendre goût. On peut aussi parler de Lola vers la mer, de Laurent Micheli, où le réalisateur a fait appel à une actrice transgenre pour le rôle. Le point commun de tous ces films, c'est qu'ils soulignent souvent le fait que c'est le regard des autres qui pose question. C'est aussi le cas dans Miss de Ruben Alves, en salle depuis mercredi. L'histoire d'Alexandre, un jeune homme qui rêve de devenir Miss France depuis qu'il est enfant. Problème, il faut d'abord arriver à faire comprendre et accepter son choix à sa famille d'adoption et de cœur.
Mais oui, regarde, okay. 3,5 kg, j'ai perdu, voilà. Ma chérie.
Je vais faire Miss France.
Tu vas faire quoi ?
Je vais faire Miss France.
Ah oui, j'avais bien entendu.
Et puis, il y a forcément des problèmes plus physiologiques, car Alexandre est un homme avec un sexe d'homme, ce qui complique les choses, surtout pour les défilés en maillot de bain féminin.
Ouais, mais je fais quoi si on me grille ?
Si tu sens que ça soupçonne, tu détournes l'attention ailleurs. Proverbe du bois de boubou.
Miss, qui est une comédie, un film grand public, lumineux, qui parle aussi de la question de la masculinité, porté par le formidable Alexandre Vetter.
Mais tu veux... changer de... Bah, tu veux devenir une femme, c'est ça ?
Attends.
Ah, ok.
Je suis ma féminité, c'est tout. Puis y a pas besoin de chuchoter, hein.
Oui, je sais pas pourquoi, pardon.
Je me sens plus fort en femme.
Et justement, pour poursuivre notre réflexion sur cette représentation du genre cinéma à l'occasion de la sortie de Miss mercredi dernier, je voulais en parler avec le réalisateur de ce film grand public, je le redis, c'est Ruben Alves. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Certains de nos auditeurs se rappellent peut-être de votre précédent film, La Cage Dorée. Donc on est là pour parler de Miss aujourd'hui d'abord. C'est une question un peu bête, mais quand même, est-ce que c'est un film militant, Miss ? Est-ce que c'est un film pour montrer que, oui, on peut être un homme, oui, on peut avoir envie de se déguiser en femme, tout en restant un homme ?
Alors, il n'a pas été conçu avec l'idée d'être militant.
Et au final, je pense que avec les retours de beaucoup de personnes, il le devient un peu. Et au final, j'en suis assez fier en fait. Donc, c'est pas un film politique, c'est pas un film militant.
Mais quand vous l'écrivez, vous pensez forcément au côté, alors sans aller jusqu'au côté militant, mais au côté message. Quand on quand on décide de faire un film sur ce thème-là, un homme qui veut devenir Miss France.
Oui.
On y pense.
Bien sûr, le côté message, effectivement, on y pense. On y pense chaque seconde quand on écrit le film, parce que tous mes personnages, moi, je les connais. Tous ces gens, les désaxés de la société, c'est les gens qui me touchent. La différence, j'en fais un point d'orgue, moi, depuis toujours. Moi, j'aime être tout le temps sur le fil avec l'émotion et l'humour, mais ce que je raconte, et je suis toujours dans une vérité, enfin, en tout cas la mienne. Et je ne veux jamais flancher sur ça. Quand on me dit « Ah, mais est-ce que tu... » Non, non, l'authenticité, elle doit être là. Et effectivement, le message, c'est le plus important, être aligné avec une vérité, voilà. Et oui, si ça l'est, au final, tant mieux, en fait.
Parce que quand on regarde dans l'histoire du cinéma, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'hommes qui se déguisent en femmes, mais c'est toujours pour un but assez précis. On parlait tout à l'heure d'Adam Dubfire, où c'est pour voir ses enfants, enfin... Là,
si,
exactement. Là, on est. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment quelqu'un qui aime un homme qui aime s'habiller en femme tout en voulant rester homme. Ça, il n'y a pas tant de films que ça qui parlent de ce message-là.
Moi, j'en ai pas encore vu, en tout cas. Effectivement, moi, mon idée de base, la genèse, c'était sur la transition d'identité, parce que ça me touche particulièrement dans ma vie privée. Et en fait, quand j'ai rencontré Alexandre Véter, ce personnage...
Qui joue le personnage principal.
Exactement, qui est le personnage principal. J'ai été fasciné par sa lumière et par, en fait, le courage qu'il avait d'assumer pleinement son féminin. C'est-à-dire que c'est un garçon. Et au bout d'un moment, je le regardais, j'étais fasciné parce qu'il passait du masculin au féminin avec une facilité. Les garçons qui venaient servir disaient « Mademoiselle ». Il fait « Non, je suis... » »« Ah, pardon ». Et en fait, il me dit... Enfin, je lui demande... Mais tu veux devenir une femme, tu veux... Enfin, il me dit pas du tout, pas du tout. Je me sens très bien, je suis un garçon, voilà. Alors oui, il a ce côté très androgyne. Mais ce qui est marrant, c'est que il m'a offert toute cette féminité-là pendant 2 mois, même plus. Et en m'offrant toute cette féminité, en fait, il s'est reconnecté avec son masculin. C'est ses mots, c'est pas les miens. C'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il a retrouvé le petit garçon qu'il était et avec justement ces rêves-là de « j'ai envie d'être une princesse, j'ai envie d'avoir une Barbie ». « Ah bah non, tu peux pas, t'es un garçon ». Bah non, en fait. Je peux, en fait. Je suis libre et j'ai pas envie d'être dans une société uniformisée où le bleu, c'est pour les garçons et le rose, c'est pour
les filles. Mais justement, le cinéma, c'est le meilleur média pour démonter ces idées reçues et voilà, prouver tout ça.
C'est un des, en tout cas. C'est une des voies. Et oui, moi, par exemple, il y a des années, quand j'ai vu Billy Elliot, j'ai dit waouh, quoi. Ça m'a fait, même on prend en film français un film comme Gazon Maudit de Josiane Balasco. Je trouve qu'elle avait fait un travail formidable à l'époque. C'était fin, c'était bien traité avec de la comédie, mais en même temps, voilà, c'était pas courant. Un personnage de lesbienne, voilà. Et du coup, cette représentativité-là, elle est très importante. Et moi, dans Miss, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le message universel. C'est-à-dire que voilà, c'est un personnage, c'est une quête de soi. Et quand on est dans une société qui est de plus en plus violente, il faut avoir du courage pour s'accepter pleinement. Et voilà, donc ça pourrait... Là, en l'occurrence, c'est un garçon qui veut vivre sa féminité, mais ça pourrait être transcrit sur tellement d'autres...
Il y a une petite crainte de tomber dans le cliché, parce que c'est vrai qu'on peut vite, pardonnez-moi l'expression, mais faire grande folle, ou ces clichés-là. Ouais. Comment, quand vous écrivez, quand vous réalisez, vous faites aussi attention à ça?
Alors oui, parce que alors moi, j'aime toujours être dans une vérité. En fait, à partir du moment où la vérité est là, on peut être grandiloquent. Et le personnage de Lola, par exemple, que joue Thibaut de Montalembert,
travesti,
voilà,
prostitué.
Exactement. Donc là, on était vraiment dans quelque chose voilà, qui pourrait être vraiment appuyé. Et on parlait avec Thibaut, et Thibaut est un acteur de théâtre formidable, et du coup, il a travaillé son personnage, il voulait surtout pas, justement, et moi non plus. Et en fait, on était dans une vérité totale. Je dis, voilà, tu prends des personnages d'Almodovar, c'est toujours une densité, mais alors ça va loin, c'est grandiloquent, c'est cette espèce de burlesque, comme ça. Et en fait, je vais vous dire, moi, tous ces personnages, je les connais. Donc voilà, c'est ces personnages où ils ont toujours le bon mot, la phrase, schlac, schlac, ça n'arrête pas, une espèce d'humour comme ça, une espèce de soif de vivre tout le temps un peu exagéré pour ne justement ne pas parler de ce qui peut être triste, c'est-à-dire cette vie au quotidien est parfois difficile pour beaucoup de gens, surtout les désaxés, encore une fois, ceux qu'on met de côté.
Et justement, vous en faites une comédie, même si ce n'est pas une grosse comédie, mais c'est une comédie à des vrais moments drôles. Est-ce que ça aussi, ça permet de faire passer les messages plus subtilement? Et est-ce que c'est plus facile, finalement, de le traiter sous forme de comédie que sous forme de drame?
Alors, c'est plus facile, non, parce que c'est plus casse-gueule toujours, parce que dès que, évidemment, on a un sujet dense ou dramatique et on le traite de façon dramatique, c'est moins risqué, on va dire. Mais j'aime pas genrer. Encore, alors voilà, on y revient. Je n'aime pas genrer les films. Alors, quand on me dit, ah, mais c'est quoi ton film? Tu fais quoi comme cinéma? Je dis, j'en sais rien, c'est la vie, en fait. Moi, je fais un film, moi, j'ai envie de passer du rire aux larmes. Et voilà, j'ai pas envie de. Je ne sais pas quoi dire.
Et on sent quand même une vraie envie d'en faire un film grand public. Je disais ça en préambule, mais c'est un film grand public. On peut aller le voir avec ses ados, on peut aller le voir en famille sans aucun problème.
Oui, oui, oui. Et les témoignages des personnes qui voient le film en avant-première me le prouvent. J'ai encore reçu il y a deux jours un message d'une maman qui m'a dit « J'ai emmené mon fils de 10 ans, je suis rentré à la maison et je viens d'avoir une heure de discussion avec mon fils, qui est la plus belle discussion que j'ai eue avec mon fils. » Quand on a ça, on se dit « Waouh, si on ne fait pas ça pour rien. » Donc oui, effectivement, on peut y aller en famille, c'est un film grand public.
Et c'est à ça aussi que sert le cinéma. C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Ruben Alves,
Merci. Réalisateur
de Miss, qui est un film qu'on est très fiers de soutenir ici à Europe 1, qui est donc sorti en salle mercredi dernier. Ça devait sortir mercredi prochain, ça a été un petit peu décalé. Donc profitez de ces vacances pour y aller, notamment en famille. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant, dans une poignée de secondes, pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui nous parle des films qui ont marqué sa vie. Aujourd'hui, c'est le papa de Titeuf, Zep, qui sera dans ce studio. Vous allez voir, c'est un fin cinéphile. À tout de suite.
Europe 1.
Et on se retrouve dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe désormais de cette séquence. Une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est Zep, le papa de Titeuf notamment, qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle édition de votre guide du zizi sexuel. Et on s'étonne que ça n'ait toujours pas été adapté au cinéma.
Non, bah, ce serait X, je pense, c'est pour ça.
Ça serait classé pornographique. Bon, c'est parti, on y va.
On y va.
Votre premier souvenir de cinéma?
Le premier film qui m'a marqué, je pense que c'est Les Sept Mercenaires.
Vous recherchez des hommes, il paraît?
Exact. Et qu'ils soient bons tireurs.
Je suis pas mauvais.
Je vais être rapide.
Essayez voir.
C'est ce que je vais faire.
Ça me semblait génial. Il y avait tellement d'acteurs connus qui mouraient. Je trouvais ça fou. Et j'adorais les westerns quand j'étais petit, mais j'avais toujours ce malaise des Indiens qui étaient présentés comme des gros sauvages que les cow-boys tuaient. Je trouvais ça pas hyper cool, alors que là, tout à coup, c'était des méchants qui étaient au service d'une bonne cause et qui se faisaient dégommer. Ça avait quelque chose de vraiment hyper héroïque.
Ça me rappelle ce bonhomme qui, chez moi, dégringolait du 10e étage. Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter « Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. »
Votre meilleur souvenir en salle?
Je crois que c'est la première fois quand je suis allé voir L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Parce que là, c'était vraiment une claque incroyable. Visuellement, c'était fou et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. J'étais avec ma copine de l'époque, on était les deux, on sortait d'étudiants en école d'art, donc voilà, on connaissait un peu le parcours de Tim Burton, on avait vu Beetlejuice, on savait qu'il était dessinateur. On n'avait vu aucune image, on avait vu quelques photos, mais rien bougeait et on nous a dit oui, c'est une comédie musicale. Moi j'avoue que j'adore pas les comédies musicales, mais c'était tellement beau quoi. Chaque personnage, chaque décor était sublime, on avait envie de se balader dans cette ville.
Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Je n'en crois pas mes yeux. Que vois-je? Ces enfants sont heureux. Que vois-je? Dans tous les coins, ces créatures ont le fou rire. Bonjour, sourire, adieu, soupir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je déménage. Que vois-je?
Et votre séance de cinéma la plus dingue?
Quand j'avais 20-25 ans, comme ça, j'avais un copain qui était projectionniste et dans une petite salle. Et on piquait les bobines et on les prenait en douce parce qu'il projetait certains films, pas tout le temps. Et on faisait des projections dans le jardin d'un copain. Donc on faisait une espèce de ciné-club privé et on présentait le film, on invitait 150 potes, il y avait à boire et à manger et on faisait les Monsieur Cinéma et on était là, oui, dans ce film en 1937. Et donc je me rappelle avoir présenté Blade Runner et il s'est mis à pleuvoir pendant Blade Runner et c'était génial parce qu'on était vraiment dans le film, quoi.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
Et donc, à la fin du film, tout le monde s'était tiré et on avait pourri la
bobine.
On avait pourri la bobine et on était bien dans la merde.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma ?
Metropolis. Et ça fait deux fois que je le rate, qu'il est projeté au cinéma, et j'y vais, et comme un idiot, j'arrive et on me dit « c'est complet ». Voilà. Et les deux fois, c'était avec un orchestre, en plus. Enfin, ça, j'adorerais voir en grand. En fait, pendant le confinement, à Genève, les cinémas ont réouvert, mais comme il n'y avait pas de nouveautés, ils ont passé des vieux films. Donc j'ai vu Shining, je n'avais jamais vu au cinéma, et c'est cool, plein de films que j'ai connus qu'à la télévision, c'est vraiment autre chose, quoi.
Le film culte que vous n'avez jamais vu.
J'ai jamais vu E.T. Mais j'ai vu mille fois des bouts de E.T. J'ai regardé deux fois E.T. avec mes enfants et j'ai dormi
on y
presque
revient.
Tout le long. Ce qui fait que je ne l'ai jamais vu en entier.
E.T. téléphone maison.
Ça a l'air bien, hein. Et je l'ai en DVD et régulièrement quand je prends le train, je me dis « Allez, je me fais E.T. » Je me dis « Non, putain, parce que je connais 95% du film, mais il me manquera toujours quand même 5%. »
14h-15h sur Europe 1, Clap, Mathieu Charrier.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
On aura tout vu. C'est un film avec Miu Miu et Pierre Richard. Des années 70, c'est l'histoire de Pierre Richard et Hervé Guibert qui ont écrit un scénario et ils veulent réaliser un film. Et en fait, leur film est racheté par les productions Morlock, jouées par Jean-Pierre Marielle, qui est sublime, et en fait, qui produit des films porno. Et il fait de leur fresque romantique un film porno. Et eux osent le dire à personne, ils ont fait engager tous leurs copains pour jouer dedans. Et jusqu'à la fin, ils n'osent pas dire ça. Et on va jusqu'au tournage. Et c'est vraiment très très marrant.
Ça s'appelle Le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que Le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oh là.
Ça se retient mieux, non ?
Oui, c'est pas mal. Bob Morlock présente La Vaginale, un film de François Perrin. Oui, oui. Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire.
Ah oui, mais c'est plus tout à fait la même histoire aussi.
Et c'est quoi maintenant ?
Nous avons toujours affaire à un commando de terroristes, mais la jeune fille de la maison est nymphomane.
Et vous n'imaginez pas le mouvement que ça donne à toute l'histoire, mon petit François. Une nympho dans un commando, c'est génial. On a surtout coupé dans les discussions.
Oui, là, c'est...
Voilà, c'était interminable, ces discussions.
Mais qu'est-ce qu'ils font à la place ?
Et pourquoi vous avez honte de l'avouer, celui-là ?
Non, parce que c'est un nanar, mais c'est très marrant. Et je trouve que c'est aussi, pour moi, c'est aussi symbole d'une époque où il y avait une certaine légèreté par rapport au sexe, à la télévision et au cinéma. Je trouve que le cinéma est devenu hyper pudibond. Là, il était plus détendu.
Bon, puisqu'on est d'accord sur le scénario, au travail, mes enfants.
Le chef-d'œuvre que vous détestez ?
Tous les films de Terrence Malick, en fait, je déteste.
Pourquoi ?
Je trouve ça insupportablement prétentieux. Pour moi, c'est les Américains qui veulent faire du cinéma intellectuel et c'est idiot. Ils disent des trucs idiots, genre le ciel est bleu, quand on est triste, ça fait mal. Des violons, des couchers de soleil, des machins. Je supporte pas. Mais pourtant, il y a souvent un truc qui m'attire dedans et je vais quand même le voir. Le dernier que j'ai vu, c'est... En plus, c'est une histoire autour d'un groupe de rock avec Fassbender qui joue dedans. Donc, je me dis, ouais, ça va être génial, un truc de rock. Putain, c'est insupportable.
La plus belle scène de cinéma, selon vous ?
Quand Charlot revient dans les lumières de la ville et qu'il a payé l'opération de la fleuriste et qu'elle voit de nouveau et qu'il vient la voir et qu'elle lui, Elle lui touche les mains, elle dit « Oh, ce pauvre Clodo, il veut une rose, mais il veut pas la payer. » Elle se moque de lui et tout à coup, elle touche ses mains et elle comprend que c'est lui. Et ce moment-là, je trouve que ça, c'est sublime. Voilà. Forrest Gump, quand il retourne voir sa copine et elle lui dit « J'ai un fils, il s'appelle Forrest. Forrest, comme... Pourquoi Forrest s'appelle Forrest ?» Ben oui, comme son papa. Il a un papa qui s'appelle Forrest. Là, je suis déjà au bord de pleurer rien qu'en vous le racontant.
C'est toi son père, Forrest. Hé, Forrest, regarde-moi. Il est beau, non ?
C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie.
Le film qui vous a fait le plus rire ?
Ça dépend des époques, franchement. Il y a des De Funès qui m'ont fait mourir de rire. Mais depuis, il y en a d'autres. Clerks, ça m'a fait hurler de rire. J'étais hyper fan de Kevin Smith. J'avais l'impression que ça allait être le plus, enfin, mon cinéaste préféré pour des décennies. Et puis, bah, c'est vrai qu'après Clerks, ça s'est un peu délité, je trouve.
Et le film qui vous a fait le plus pleurer ? Forrest Gump ?
Forrest Gump, sans doute, ouais. Ou Sur les routes de Madison. Mais moi, je suis très pleureur au cinéma. Hein.
Les mots étaient en moi. J'ai eu tort, Robert. J'ai eu tort de rester, mais je ne peux pas partir. Laisse-moi te redire pourquoi je ne peux pas partir. Ce genre de certitude ne peut arriver qu'une fois dans une vie.
Ça fait marrer ma fille parce que dès qu'il y a une scène mélo, elle me regarde, elle me dit « Tu pleures ?» Et je pleure, ouais.
Votre horaire préféré pour aller au cinéma ?
Ah, 20h.
Classique ?
Ouais, classique.
Et quelle place dans la salle ?
J'aime être assez devant, en fait. J'aime bien voir à peine les bords de l'écran. J'adore aller voir des films en IMAX. Parce que même si c'est de la VO et que j'arrive pas à lire les sous-titres parce que je suis trop près, mais je trouve que le fait d'être perdu dans un écran, c'est génial. Après, ça dépend quel film. J'ai vu Tenet en IMAX, ça m'a un peu fait chier parce que ça bouge trop et je comprenais rien. Mais par exemple, Interstellar en IMAX, c'était sublime.
Et pour finir, la bande originale qui a le plus marqué votre vie ?
Les Blues Brothers, je pense. Tout est génial. Ça nous a marqué quand c'est sorti. Moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Et puis, on voyait défiler toutes les stars de la soul, quoi, qui jouaient un petit rôle dedans. Enfin, Aretha Franklin, Ray Charles, qui est vendeur d'instruments de musique aveugle. Enfin, il y avait plein de clins d'œil géniaux. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Shake it!
Charles avec un extrait de la bande originale des Blues Brothers dans Clap sur Europe 1. Eh bien, merci beaucoup, Zep, d'être venu dans Clap, cette émission cinéma, d'avoir fait un petit détour du monde de la bande dessinée. Je rappelle la ressortie, alors c'est même presque une sortie inédite, puisque vous avez retravaillé les textes et vous avez réactualisé ce guide du zizi sexuel. Ça fait que le premier était sorti il y a 20 ans ?
19 ans.
19 ans. Bon, là, j'ai vu rajouter des notions de consentement, voilà, vous l'avez...
Ouais, c'est une vraie mise à jour, là, il y a beaucoup d'ajouts.
Bon, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite dans Clap.
Avec plaisir.
Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'émission. J'ai le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films sortis en salle mercredi dernier.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils sont là, frais comme des gardons. On va désormais débattre des films sortis en salle mercredi dernier, car il y en a. Il y a une belle offre en ce moment au cinéma. Dans le studio aujourd'hui, Stéphanie Belpège du Journal du Dimanche. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mathieu.
Et Thierry Chaise du magazine Première. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphanie.
On a un gros programme aujourd'hui, le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, porté notamment par Virginie Efira. Polly aussi, le nouveau Nicolas Vanier. Avec cette fois une histoire de poney, on débattra de Petit Vampire, le film d'animation de Johan Sfar adapté de sa BD. Et puis on dira quelques mots de Peninsula, suite du dernier train pour Busan avec une invasion de zombies. Mais on commence donc par Adieu les cons, nouveau film signé Albert Dupontel.
Bonjour.
Vous êtes qui ?
Je suis sustrapé. J'étais à l'agence de santé.
Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier.
On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail.
C'est sur moi que je tirais.
Ah bon ?
Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez. Oui. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Albert Dupontel qui joue JB, c'est un fonctionnaire geek qui a décidé de mettre fin à ses jours après s'être vu refuser cette promotion qu'il attendait tant. Par chance pour nous spectateurs, il se loupe et il va croiser la route de Suze, une coiffeuse atteinte d'une maladie incurable à cause des produits toxiques qu'elle a utilisés toute sa vie. Et elle a décidé de mettre à profit les quelques semaines qui lui restent à vivre pour retrouver l'enfant qu'elle a abandonné à la naissance. Alors vous mettez au milieu de tout ça un archiviste aveugle qui est d'un romantisme fou, joué par Nicolas Marié, et tout le monde part à la recherche de cet enfant devenu grand. C'est à la lisière de la fable, ça alterne le burlesque, le propos politique, de vrais moments romantiques aussi. Qu'en avez-vous pensé ?
C'est clairement la claque de 2020, j'ai pas vu mieux depuis cette année.
Autant une claque d'écriture que de mise en scène.
J'ai du mal à m'en remettre, je trouve ça très très beau.
On dirait du Capra, c'est un film fabuleux quand
même. J'ai aimé le fait qu'on remette en cause finalement la société dans laquelle on vit.
Je suis pas une très grande fan d'Albert Dupontel en général, mais là c'était vachement bien. C'était loufoque, mais moins que dans d'autres films.
Ça ravive énormément de souvenirs. La quête d'une mère. Il y a trop d'émotions, je suis désolé.
J'ai pas trop compris la fin. Enfin, je suis encore en réflexion sur la fin, là.
On s'amuse dans le film et c'est hyper généreux comme cinéma. Lui, on sent qu'il s'amuse avec sa caméra, avec son son. C'est du vrai cinéma.
Si le cinéma français pouvait être comme ça de plus en plus, eh ben, les gens, je pense, iraient de plus en plus au cinéma. Allez voir ce film, bordel.
Bon, bah là, c'est une déclaration d'amour unanime. Stéphanie, est-ce que vous souscrivez à Adieu les cons ?
Absolument. Pour moi, c'est son meilleur film à ce jour. Je trouve qu'il est touché par la grâce. Il y a une écriture au cordeau vraiment merveilleuse. Là, ça m'a fait pleurer au point que j'ai dû changer de masque, en fait, pendant la projection. J'ai trouvé effectivement qu'il y a cette dimension romantique et nostalgique qui semble héritée de Jean-Pierre Jeunet. Alors, on ne sait pas pourquoi il y a eu soudain cette parenté merveilleuse, mais en tout cas, à plusieurs reprises, et aussi grâce aux seconds rôles qui sont excellents, je pense à Jackie Berroyer qui a quand même, je crois, deux scènes qui nous mettent au tapis. Enfin voilà, je trouve vraiment Dupontel d'une élégance sur ce film, toujours avec cet humour du désespoir qui nous touche, qui nous bouleverse. C'est dans mon top 10 de cette année, hein, clairement.
Thierry, est-ce qu'il y a une petite réserve ?
Non. Moi, mon préféré sera toujours Le Créateur, parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement dingue. Ce que je trouve assez beau, c'est qu'après être passé par l'adaptation, c'était Au revoir là-haut, je trouve qu'il se pariait beaucoup plus de choses en mise en scène qu'avant. Comme si il s'était enfin autorisé par ce passage-là. Et donc, on retrouve à la fois tout ce qu'il fait sur le cinéma depuis Bernie. Et je trouve que de toute cette bande des cinéastes nés dans les années 90, c'est celui qui a gardé la même impulsion politique, la même rage, la même chose. C'est normalement, quand on vieillit, on s'assagit. On parlait d'Ian Kounen il y a quelques semaines, on est un peu plus sage. Et bien là, je trouve qu'il a totalement gardé ça, qu'il y a à la fois sa bande, et offrir à Nicolas Marié, qui est là depuis le début, un aussi beau rôle, c'est formidable, et qu'il fait rentrer des gens. Virginie Efira,
ouais,
elle est absolument renversante. Ouais. Si on est aussi ému, si Stéphanie est aussi émue, c'est aussi parce qu'elle charrie quelque chose. Voilà, il y a de la générosité à revendre. Et je ne suis pas surpris que les spectateurs la prennent en pleine figure. C'est un très, très bon film.
Bon, voilà. Adieu les cons, vous aurez compris. Il faut absolument aller le voir. Il a failli ne pas sortir, ce film.
toute dernière minute, il a été sauvé. Et il est donc en salle, Adieu les cons, signé Albert Dupontel. Clap. Alors, deuxième film, on est plus dans le film familial, mais deuxième film dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est Polly, le nouveau Nicolas Vanier.
Approchez, approchez. Et maintenant, celui que vous attendez tous, l'unique, le sensationnel Polly.
On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obéissant.
Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney.
Comment tu traites tes animaux ?
Avec tous les ingrédients du film familial pour ses vacances de la Toussaint, je demande donc une petite fille qui s'appelle Cécile, 10 ans, qui vient de déménager dans le sud de la France avec sa maman, jouée par Julie Gayet, on est dans les années 60. Vous ajoutez un poney, vedette maltraitée d'un cirque dirigé par Branck Calous et Patrick Timsit, et puis un ermite, rejeté par tout le village, Victor, incarné par François Cluzet. Évidemment, vous me voyez venir, notre petite fille va sauver le gentil poney et aider de ce Victor, le réhabilitant au passage. Alors, votre avis et l'avis de vos enfants ?
C'était bien. C'était trop bien.
C'était triste ?
Bah, j'ai aimé les poneys et j'ai pas aimé le cirque parce qu'ils étaient méchants.
C'était bien parce qu'elle a sauvé le poney qui faisait faire du mal.
Vous parlez de la maltraitance des animaux.
C'est la nature, on voit le beau paysage, oui. Bon, le scénario est un peu bizarre, mais disons, je suis de la campagne, alors oui, ça me rappelle de bons souvenirs.
Les paysages sont très beaux et puis le film, c'est très touchant. La complicité entre Polly et Cécile.
Bah, c'était bien, surtout quand elle retrouve sa mère.
J'étais étonnée de l'époque du film. Ça m'a rappelé ma jeunesse.
Très bien tourné, plein d'émotions pour les enfants. C'est vraiment bien adapté aux enfants.
Il est fort quand même Nicolas Vanier. Ça a très bien démarré, Polly, depuis quelques jours. Et on sent qu'effectivement, ses spectateurs sont contents de retrouver l'idée d'une certaine France. C'est un peu la sauce Nicolas Vanier. Alors Thierry Chaise, ce Polly.
À cette sauce, moi j'ai toujours un peu de mal. Moi, on est en temps d'interdiction, j'aimerais que des films soient interdits aux plus de 7 ans, par exemple. Et je serais vraiment
Vous
très
êtes
content.
Dur.
Non mais il y a tout, c'est-à-dire que ce que j'aime pas beaucoup chez Nicolas Vanier, c'est justement ce côté, regardez, on prend toute une époque et on vous la met, mais alors on va vous la mettre au forceps. Donc, les maltraitances faites aux animaux, Polly qui dans le feuilleton était un garçon devient une petite fille. On prend tout le truc, on surfe sur une époque, mais on reste dans la bonne vieille nostalgie parce que comme ça, les grands-parents, les parents vont aimer. Quand Pixar parle à tous les publics, ça me plaît. Là, je trouve ça, mais alors d'une lourdeur, les hommages aux gendarmes. Je pense que Louis de Funès doit se retourner en sa tombe. C'est-à-dire que c'est lourd. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire une bonne sieste. Quand la sauce est aussi lourde, on peut faire. Non, c'est.
Stéphanie, voilà. Sauvez-moi, Polly, je vous en supplie.
Ben, moi, j'aime vraiment la démarche de Nicolas Vanier. Alors, c'est étonnant, Thierry, parce qu'en fait, les arguments, je les interprète.
Oui, on peut les retourner.
Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, son engagement. Qu'il démontre depuis toutes ces années, puisque c'est aussi un activiste pour la protection de l'environnement et un aventurier qui a parcouru quasiment toutes les contrées glacées du globe, là, effectivement, s'engage pour dénoncer l'exploitation de l'animal pour le divertissement de l'homme au moment où la ministre dit qu'effectivement, dans les cirques, il n'y aura plus d'exploitation d'animaux sauvage ou exotique. Donc il est toujours dans l'actualité. Il y a aussi une pointe de féminisme à travers le personnage de Julie Gayet.
Oui, c'est une mère célibataire.
Absolument. Eh oui. Une mère célibataire. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais en même temps, c'est ce qui plaît. Il y a cette bienveillance.
Et puis on sait quand on va voir Nicolas Vanier que voilà, on va cocher toutes ces cases-là.
C'est pour ça que voilà. Je suis pour l'interdiction au plus de 7 ans. Je le redis.
Et il y a aussi ce que disait le monsieur du micro-trottoir. Il y a le cinéma qui parle du patrimoine, du terroir, de ces paysages ensoleillés des Cévennes qui sont réconfortants, avec cette nostalgie des années 60, là aussi, beaucoup de couleurs. En fait, ça fait l'effet d'un antidépresseur, ce film, avec des valeurs bien pensantes comme l'entraide, la solidarité, le respect, la tolérance, évidemment la relation entre l'enfant et l'animal, là aussi, qui est portée au nu. Et en plus, comme il y a toujours cette quête de vérité chez lui, où il va effectivement créer une vraie relation entre l'actrice et le poney retenu en casting, il les a regardés évoluer pendant 6 mois avant le début du tournage. Donc en fait, rien n'est fake et je pense que ça contribue à l'émotion.
Voilà, Polly, c'est ouais. Nicolas Vanier. Allez le voir et surtout, faites-vous votre avis. Clap. On va rester sur la thématique enfant avec maintenant le film d'animation Petit Vampire.
Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie.
Je quitte cette maison.
Il a perdu la boule.
veux qu'on me traite comme les autres enfants.
Vous allez où ?
À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge.
Tais-toi,
t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe.
Petit vampire adapté par Johannes Farr lui-même de sa propre bande dessinée. Alors notre petit vampire vit dans une maison hantée, il s'ennuie terriblement avec tous ses copains monstres. Faut dire que ça fait 300 ans qu'il n'a pas le droit de sortir et 300 ans qu'il a 10 ans. C'est embêtant, lui il ne rêve que d'une chose, aller à l'école pour se faire des copains. C'est bien qu'un soir, eh bien, aidé de son fidèle bulldog, il s'échappe, début des ennuis et d'une mignonne aventure. Personnellement je préfère les BD, mais qu'en avez-vous pensé avec vos enfants?
C'était cool, c'était bien.
C'était bien. L'aventure, l'action et le suspense aussi.
Très mignon et très poétique. Enfin, moi, j'avais l'habitude de lire les BD quand j'étais enfant, donc c'était fidèle.
Le petit vampire, il me faisait rire. Il y avait un méchant, sa tête, elle était en forme de lune.
C'était drôle et j'aime bien aussi les dessins parce que j'avais déjà lu Le chat du rabbin.
Un peu speed pour moi. Et j'aime bien les dessins de Sfar.
Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Tellement habitué à du ketchup mayonnaise américain que c'était fantastique.
Bon, bah plutôt positif là encore, le public pour ce petit vampire, Stéphanie Belpèche.
Bah moi je vais jouer les troubles fêtes parce que j'ai été un peu déçue.
Moi aussi, faut
le
dire.
Je dois dire. Et pourtant, j'aime beaucoup l'univers de Johannes Farr. Mais là, je trouve qu'au niveau, c'est un premier long métrage, au niveau de l'enjeu dramatique, ça manque vraiment de consistance. Et je trouve que ça manque de rythme aussi. Et dans le genre, c'est-à-dire quand on essaye de faire un hommage au film de monstres, je préfère largement Hôtel Transylvanie, parce que là, il cite plein de références. Il cite Roger Corman, Christopher Lee, des titres de films qui, moi, ont bercé ma jeunesse. Mais pour en faire pas quasiment rien, en fait, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Alors, oui, effectivement, le petit vampire est très mignon. mais voilà, j'ai été quand même un peu déçue par le manque d'ambition du film, en fait.
Thierry,
je suis un peu d'accord. Par rapport au chat du rabbin, par exemple, je trouve que... En fait, là, alors, si on n'a pas lu les livres,
oui,
sans
ça.
Doute, mais si on a lu les livres, là, vraiment, c'est la même chose. On voit bien. Donc lui, on sent qu'il s'éclate quand même à faire vivre ses personnages.
Plaisir,
ouais. Mais au niveau du scénario, on reste quand même sur ça. Parce que c'est Johannes Farr. Évidemment, parce que c'est Johannes Farr. C'est pas horrible, mais on est tellement habitué aussi à voir des très bons films d'animation actuellement que d'un coup, que Sfar en fasse un peu moins bien, voilà, on a l'impression qu'on l'a un peu aussi vite oublié une fois qu'on l'a vu.
Et ce petit vampire, moi je l'avais vu au Festival de Deauville avec une salle pleine d'enfants et j'avais pas trouvé que la salle était très emballée.
Ah oui. Clap.
Et pour terminer, on va parler de zombies avec Peninsula.
T'as perdu la tête. Tu veux y retourner, toi?
Tu es les tous!
Accrochez-vous bien !
Peninsula, qui est une sorte de suite au dernier train pour Busan, qui avait emballé Cannes et les spectateurs et qui racontait comment un père et sa fille tentaient d'échapper à une horde de zombies. C'était fait avec peu de moyens, mais c'était tellement efficace. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que suite au succès du film, le réalisateur a vu son budget doublé pour Peninsula. Les zombies ont désormais envahi la péninsule et quelques mercenaires, partis à la recherche d'un trésor, vont tomber sur une bande de survivants complètement fous. Alors, convaincu ou pas par ces zombies?
J'étais un peu déçu.
C'était moins bon que le premier.
C'est moins bien que Busan. Il y a moins de poésie, je trouve. Là, c'est plus violent. Mais bon, ça se fait suivre quand même.
Bien fait, plein d'action.
Une suite qui, contrairement à la première, mise plutôt sur le spectacle que le suspense.
Je trouvais que les plans étaient beaucoup plus réfléchis dans un train pour Busan. Là, c'est très classique, on montre beaucoup l'action. On n'a pas un gros ressenti, en fait, devant le film. J'étais plutôt de marbre. Je trouve que les effets spéciaux sont très cheap.
Les courses de voiture assez cheapos, c'était assez bizarre. Divertissant, ça c'est clair, on s'ennuie pas quoi.
C'est tout le cliché des films de zombies en fait, on va passer un bon moment, mais je m'attendais à un peu plus quoi.
Bon, ben voilà, Peninsula rhabillée sur l'hiver, Thierry Chaise.
C'est un joueur. Ce que j'ai dit sur Johannes Farr, je pourrais le redire exactement mot pour mot sur ce film-là. C'est-à-dire que si on n'a pas vu Busan, bon, sans doute qu'on va passer un bon moment. Seulement, on a vu Busan pour beaucoup, en tout cas ceux qui vont y aller. On a aimé ce côté un peu huis clos. Il y a des gens qui savent très bien faire des films plus petits et qui n'arrivent pas à faire des films plus gros. Enfin, qui n'arrivent pas. Une fois encore, ce n'est pas non plus l'horreur
non,
absolue.
C'est ça.
Mais forcément, on attend beaucoup parce qu'on se dit, bah, avec plus de moyens, il va faire mieux. Bah, avec plus de moyens, il fait un peu moins bien, c'est un peu moins efficace, on tremble un peu moins, tout est un peu moins, alors que lui, il essaye de faire un peu plus. Et donc, on est tout le temps à rebours du film, et c'est ce qui est dommage.
Stéphanie Belpèche, je sais que vous n'avez pas été très emballée non plus.
Oui, je suis entièrement d'accord, et pourtant, il y avait une promesse que ce ne soit pas une suite, mais le prolongement de l'univers. Et je m'étais dit, ça c'est pas mal, parce que du coup, on peut tout inventer. Mais en fait, déjà, les références fusent. J'ai pensé à Mad Max Fury Road.
Pour les courses-poursuites, c'est vrai que...
Ah, pour les courses-poursuites, l'action, les fusillades, j'ai pensé à The Raid, j'ai pensé à New York 97, dans le côté une escouade de mercenaires envoyée en terrain hostile. Mais après, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que tout est noyé dans un déluge d'effets spéciaux et de bons sentiments, il faut le dire, parce que c'est quand même dégoulinant de bons sentiments. Au détriment de la peur et de la tension, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout cette sensation qui nous tenait dans Dernier Train pour Busan. Et je rejoins Thierry, il est beaucoup plus efficace en espace clos, en fait.
Alors, il faut bien dire, effectivement, que c'est peut-être un peu moins bien que Dernier Train pour Busan, mais c'est pas non plus un film raté. Si on aime les films de zombies, c'est pas épouvantable. Voilà, Peninsula, on a aussi parlé de Petit Vampire, de Polly et d'Adieu les cons. Merci Stéphanie Belpech du Journal du Dimanche.
Merci Mathieu.
Et Thierry Chaise de Première. Merci Thierry.
Merci Mathieu.
Bah nous on se retrouve la semaine prochaine, hein, samedi 14h sur Europe 1, même lieu, même heure pour un nouvel épisode de Clap que vous retrouvez également en podcast. Vous tapez Clap sur toutes les plateformes et vous n'hésitez pas à vous abonner. Merci à Nicolas Baudin qui réalise l'émission, Marjorie Adelson qui la prépare et qui va recueillir vos impressions à la sortie des salles. Je voulais aussi avoir une petite pensée amicale pour Céline Petit, qui est une attachée de presse qui était très importante dans le milieu du cinéma, qui a défendu beaucoup de films et qui nous a quittés très jeune il y a quelques jours, déçue d'une longue maladie. Donc on pense à sa famille et à tous ses collègues qui ont travaillé avec elle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 14h sur Europe 1. Europe 1.